Les bernaches canadiens sont vraiment impressionnants, non? Donc, ils peuvent prendre un voyage d'un millier de kilomètres pour arriver dans un climat plus chaud que la nôtre, présentement, bien sûr. Mais est-ce que nous avons observé leur forme, donc la forme d'une V? Il y a un leader qui prend le lead, mais quand il est fatigué, il y a un autre qui prend sa place. Et quand, en fait, ils volent dans la forme d'une V, les études ont montré que quand il fait ça, il y a un rayon d'action de 70% plus important que si chaque bernache volait de son côté. Donc, le fait de voler en équipe montre la force. Et lorsqu'une bernache devient malade ou blessée, deux entre elles sortent de l'équipe et descendent à terre avec le malade pour l'aider et protéger. Elle reste avec elle jusqu'à ce qu'elle soit capable de voler à nouveau. Et il y a les bernaches qui klaxonnent en arrière. Et leur rôle, c'est peut-être d'encourager les leaders. Mais la chose qui est vraie, c'est quand ils sont solidaires, ils sont plus forts. Ce matin, nous allons regarder Ecclésiaste chapitre 4. Nous allons aborder quatre problèmes qui nous empêchent à être une équipe. L'avarice, l'isolement, l'individualisme et le matérialisme. En fait, Ecclésiaste 4 nous enseigne ceci. Puisque Christ est roi, vivons pour les autres et avec les autres. Puisque Christ est le roi, vivons pour les autres et avec les autres. On va diviser chapitre 4 d'Ecclésiaste en quatre sections. Le premier, chapitre 4, 1 à 3, réconfortons les opprimés. Chapitre 4, versets 4 à 6, j'espère que vous avez vos Bibles devant vous. C'est pratiquons le contentement. Et versets 7 à 12 de chapitre 4, vivons en collaboration. Et la dernière, quatrième section, versets 13 à 16, soyons loyaux envers Christ le roi. La première section, réconfortons les opprimés. Je vais lire le texte ici, versets 1 à 3. Je utilise la Nouvelle Bible Second. J'ai vu d'autre part toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, les larmes des opprimés, et personne pour les consoler. La force du côté de leurs oppresseurs et personne pour les consoler. Moi, je déclare les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore en vie. Mais plus que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore été et qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. Ici, le maître est en train d'enseigner ses élèves, qui sont les jeunes leaders à Jérusalem. Et il voulait les enseigner ce qu'il a observé dans l'humanité. Et c'est quoi? L'oppression. Observons le contraste entre la puissance des oppresseurs et les larmes de ceux qui souffrent. En fait, ce que le maître fait ici, c'est une observation. Mais d'où vient l'oppression? Elle vient de la chute, quand Adam et Ève ont choisi leur propre chemin au lieu d'obéir le Seigneur, ils ont introduit dans l'humanité le péché. En chapitre 4, qu'est-ce que nous voyons de Genèse? Caïn tue son frère. Ça, c'est l'oppression au maximum, déjà au maximum après la chute. Mais nous voyons que Dieu aussi interdit l'oppression. Il juge les oppresseurs et sauve les opprimés. On a de nombreux exemples dans la Bible. Mais c'est quoi la loi de Dieu? C'est aimer Dieu et notre prochain. Ça évite l'oppression. Et Dieu juge les oppresseurs, même si c'est son propre peuple, les membres de son propre peuple, il les juge. Ésaïe 10, versets 1 à 3. Et il délivre les opprimés. Son peuple, dans l'Exode 3, 7 à 9, jusqu'à chapitre 15 avec les cantiques de Moïse, c'est une cantique qui loue l'Éternel pour délivrer les opprimés. En fait, c'était la nation d'Israël. Et on voit dans l'Ancien Testament également que Dieu délivre les individus qui sont opprimés, comme Hannah en 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Et bien sûr, nous étions les opprimés du péché. Et Dieu nous avait libérés de l'esclavage au péché. Donc, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer en tant que leçon ici? On doit accepter la vie qu'on voit. On ne doit pas avoir un optimisme superficiel. On doit ouvrir nos yeux à l'oppression qui nous entoure. Aussi, c'est important de souligner que Karl Marx n'est pas le maître de cette discussion. En fait, la Bible parle beaucoup de l'oppression et de libérer les oppressés. Mais la Bible présente également une compréhension plus complète de l'humanité. Donc, c'est quoi le problème qui produit l'oppression? C'est le péché, c'est le fait que l'humanité s'est détournée de Dieu. Comment vaincre l'injustice? En fait, il y a deux options devant nous. Dans notre conception d'humanité, dans notre culture, ce qui est propagé, c'est une question d'éducation. Si on éduque les enfants, les adultes, il n'y aura plus d'oppression. Mais ce que nous voyons dans la Bible, c'est l'Évangile. L'Évangile est la réponse à l'oppression. Nous voyons également comment Christ lui-même était opprimé et dans cette semaine dans laquelle nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il était opprimé par les chefs religieux, violemment opprimé et battu par les soldats. Christ a été opprimé jusqu'à mourir sur une croix. Cela nous montre comment Dieu prend en sérieux la délivrance de son peuple. En tant que chrétiens, nous devrions être les premiers à lutter contre l'oppression. Nous voyons dans Jacques 1, 27, la religion qui est pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Puisque Christ est roi, vivant pour les autres et avec les autres. Puisque Christ est roi, vivant pour les autres et avec les autres. Deuxième point, pratiquer le contentement. Ici, le maître énumère trois approches au travail. on a un beau travail, quelqu'un très compétitif. Le deuxième, c'est le paresseux. Et le dernier est le travailleur satisfait, en verset 6. Donc le premier, verset 4, j'ai vu que tout travail et tout succès d'une œuvre ils ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Ce n'est encore là que futilité et poursuite du vent. Donc le maître observe que le travail qui marche bien, souvent, est motivé par la jalousie. Et en fait, le mot en hébreu, ici, a plusieurs sens. Ça inclut la jalousie, l'envie, rivalité, compétition et animosité. Ceux qui sont accros au travail sont souvent motivés par un genre de jalousie, de compétition, animosité. Le deuxième, c'est l'homme stupide, le paresseux. Verset 5, l'homme stupide se croise les bras et mange sa propre chair. Donc, le paresseux ici ne travaille pas assez et n'a rien à manger. Mais le troisième trouve l'équilibre parfait entre les deux. Et c'est le chemin de la sagesse ici, le travailleur satisfait. Verset 6, mieux vaut une poignée de repos que deux poignées de travail et de poursuite du vent. Le sage travaille, mais n'est pas un accro au travail. Il apprécie aussi les moments de repos. Donc le sage évite les deux extrêmes, de travailler trop ou de ne pas travailler assez. Voici la sagesse. Pour les premiers destinataires, les jeunes leaders à Jérusalem, le maître voulait enseigner à eux la sagesse. Le repos est important. Travail, mais pas trop, pas continuellement. Ne sois pas motivé par la jalousie. En fait, c'est mieux d'avoir une main, un poignet de repos, un poignet de travail afin de donner l'autre poignet à quelqu'un d'autre. Donc ici, en fait, le prochain verset, verset 7, « J'ai vu encore une autre futilité sous le soleil. Voilà un homme, seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin. Ses propres yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur? Ce n'est encore là qu'une futilité et une occupation funeste. » Donc, l'accro de travail est jamais satisfait. Jamais, jamais assez. Le mot pour moi ici, c'est très individuel. En verset 8, ça peut être traduit le mot âme. Donc ici, il prive son propre âme de bonheur en travaillant trop. Donc l'accro de travail finit par se rendre compte que tout ce qu'il a fait dans son carrière, tous les bénéfices se terminent avec la mort. Parce que la question de la mort est une question importante pour le maître. C'est le point final de nos vies, de nos projets. Donc, qui va hériter ce que j'ai fait avec toutes les peines que j'ai déposées dans mon carrière? Donc, le premier destinataire était facilement distrait par les projets, la jalousie, la tentation d'être accro du travail pour obtenir des gains terrestres, mais le maître va donner les avertissements à eux. Et à nous ce matin, nous sommes les élèves du maître ce matin. En fait, on voit ici le matérialisme. En fait, le matérialisme, c'est le fait qu'on peut trouver l'épanouissement dans le marché des choses, en achetant les choses chez Costco, chez Amazon Prime. Mais je vous dis, mes amis, ce n'est pas là. Ce n'est pas là, la joie. En fait, pour retourner aux accros au travail et aux paresseux, pour l'accro au travail, on voit c'est un problème d'identité. À la base de l'accro de travail, elle pense que son valeur se trouve dans son boulot, que son identité se trouve dans son travail. Ceux qui sont au cégep ou à l'université n'écoutent pas ce que je viens de dire. Surtout si tes parents sont à côté de vous. L'identité n'est pas dans le travail. Qu'est-ce que Jésus dit? Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou en Luc 12, 15, puis il dit à tous, gardez-vous avec soin le désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Pour le paresseux, ce n'est pas un problème d'identité, c'est un problème de perspective. C'est un problème de perspective. Le paresseux pense pas à demain. Le paresseux pense jusqu'à maintenant. J'ai parlé avec un ami en Californie qui fait la restauration des BMW et les Porsche très anciens. Et il m'a dit, et il est en train de lire les Puritains, et il a dit, « Dan, est-ce que je dois juste quitter mon travail et servir le Seigneur? » Et j'ai dit, « Le Seigneur nous dit de faire tout pour sa gloire. » Donc j'ai dit, « Ce qu'on boit, ce qu'on mange, comment on travaille à l'école, comment on travaille au bureau, de faire tout ça pour lui. » Donc j'ai dit, restaurer le Porsche pour la gloire du Seigneur. Et j'ai dit à lui, le ministère, c'est une question de réseau. Et imagine, toi, Kwan, tu as accès aux hommes et femmes riches qui viennent chez toi. Tu peux partager l'évangile avec eux. J'ai dit, le ministère, c'est une question des réseaux, des connexions avec les autres. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3, 11 à 12? Ça dit, or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Le travailleur satisfait trouve un équilibre. Il travaille pour le Seigneur. Elle travaille pour le Seigneur. Et le repos est important pour elle. Le repos est important pour il. Ils ne travaillent pas juste 60-80 heures par semaine. On peut avoir le succès au travail, échec à la maison. Succès au bureau, problème dans le couple. Un bon bulletin de notes à l'école, mais des chicanes avec ta sœur ou ton frère. C'est ça, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le repos est important. Le travail est important. En fait, qu'est-ce que la Bible dit ici dans 1 Timothée 6? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les gens dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Travail pour le Seigneur. Avec Zachée, on voit un exemple de la repentance en Luc 19, 7 à 10. Mais je veux focaliser juste sur verset 8. Zachée était riche. Il a volé beaucoup d'argent des autres. Il a opprimé les gens. Oui. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Et c'était quoi la réponse de Jésus? Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Zachée était un accro, devenu un sage. Il est un exemple pour nous tous. Puisque Christ est roi, vivons pour les autres et avec les autres. Le troisième section, versets 9 à 12. Travailler, en fait, vivons en collaboration. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. De même, si deux se couchent ensemble, ils sont chauds. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un peut maîtriser un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne se rompt pas vite. Donc le maître ici revient à la question qu'il a introduite en chapitre 1, verset 3. Quel profit l'homme retire-t-il de tout son travail? Le travail, c'est à quel profit? C'est quoi les bénéfices de notre travail? C'est ça la question qui préoccupe le maître. Mais le maître fait une observation importante et il n'a pas de vanité ici. C'est remarquable. Pas de vanité. Pas quelque chose d'éphémère ici dans ce passage. Il voit que la compagnie dans le travail augmente des bénéfices dans le travail. Un peu comme les bernaches canadiens. De travailler ensemble, on apporte plus de bénéfices. En trois domaines, versets 9 à 10, le travail, dans le repos et dans la guerre. Donc, on va regarder ça ensemble. Versets 9 à 10, examinons le premier verset dans cette section. Quels sont les avantages du travail en commun? Deux valent mieux que d'un parce qu'ils gagnent mieux leur vie lorsqu'ils travaillent ensemble. ils sont plus productifs. Plus productifs. Deuxième, en fait, c'est le repos. Examinons verset 11. Quels sont les avantages de se reposer ensemble? Deux pour se réchauffer l'un l'autre. Ils se reposent mieux. Ils se reposent mieux. Donc, on a plus productif, ils se reposent mieux. Et si le prochain, voyons maintenant verset 12, quel avantage d'être ensemble quand on fait face à un adversaire? À deux ou à plusieurs, on peut résister avec succès à une attaque. Donc, ils sont plus forts dans le travail, dans le repos, dans le combat. C'est mieux d'être en équipe. Et les jeunes leaders étaient individualistes, peut-être. Les élèves du maître. Donc, il avait besoin de les conseiller de travailler en équipe. Et pour nous aujourd'hui, on est tenté par toutes sortes de choses. D'être la jalousie d'un accro au travail, le matérialisme, l'individualisme. Mais en fait, ce que notre Seigneur a fait, c'est une nouvelle communauté. La communauté du royaume, la communauté du roi. On appelle ça des fois l'Église. Nous travaillons ensemble dans le ministère, dans la vie. Nous résistons ensemble la culture, les forces de ténèbres dans les lieux célestes qui dirigent les choses dans le monde. Nous sommes plus forts ensemble. Et quand quelqu'un tombe, on le suit jusqu'au point qu'il retrouve sa force pour rejoindre l'équipe. Nous travaillons ensemble dans la proclamation de l'Évangile, dans une société qui est de plus en plus résistante. Et quand quelqu'un est découragé, on l'encourage. Puisque Christ est roi, vivons pour les autres et avec les autres. Quatrième, loyal envers Christ le roi. Soyons loyal envers Christ le roi. Mieux vaut un enfant pauvre mais sage, verset 13, qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus prendre conseil. Car on peut sortir de prison pour régner, de même qu'on peut être né pauvre dans son propre royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil se mettre du côté de l'enfant qui allait succéder à l'autre. Il n'y avait pas de fin à toute cette foule, à tous ceux qui devant lesquels ils se tenaient. Toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car cela aussi n'est que futilité et poursuite du vent. Le maître veut enseigner combien c'est inconstant d'être roi, l'appréciation des autres. Il y a beaucoup de changements. Le succès politique est éphémère. De chercher d'être le meilleur leader au monde, le roi à cette époque, c'est éphémère. En fait, la nature éphémère de la vie, dans tous les domaines, si nous sommes déconnectés de Dieu, les élections présidentielles aux États-Unis prennent beaucoup de de se passe dans les nouvelles. Mais on laisse les Américains avec eux. Savez-vous combien de premiers ministres on avait au Canada? 23. Est-ce qu'on peut nommer plus de 4? Les leaders sont oubliés dans le mémoire de la société. Oubliés. Mais il y a un roi qui n'est pas oublié. Il a entré à Jérusalem, l'entrée triomphale. Des manches, des rameaux. Aujourd'hui, il entre sur un anneau. Et lui, on n'a pas oublié. Puisque Christ est roi, puisque Christ est roi, amen, puisque Christ est roi, vivons pour les autres et avec les autres. Amen.